Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre d'été, ça commence et on est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Ce soir, doit-il y avoir un état d'urgence culturelle ? À quoi servons-nous ? La question est posée par Jean-Marie Hordet dans l'édito du programme 2016-2017 de son théâtre, celui de la Bastille à Paris. Ce lieu qui a été pendant 68 jours, d'avril à juin, le terrain d'une nouvelle expérience, observation à la loupe des liens qui peuvent unir le personnel et les artistes d'un théâtre à son public. L'opération s'est appelée Occupation Bastille et elle reflète, de par sa rhétorique symbolique, cette volonté de certains théâtres publics d'être plus les accompagnateurs que les simples témoins d'un nouveau projet de société. Les grands mots sont lâchés, ainsi la colline lance son préavis de rêve, le théâtre des arts de Rouen fait sa révolution et le théâtre national de Nice lance quant à lui un festival en forme d'appel « Réveillons-nous ». Alors certes, cette tendance des arts vivants à se mêler du politique et à vouloir se faire une place au sein de la cité n'a rien de nouveau, ça fait même partie à vrai dire de son histoire, mais quel élan porte-t-il aujourd'hui alors que la question de la diversité des publics et du discours qui manque se pose plus que jamais. On ne peut pas demander au théâtre de résoudre la fracture sociale, disait le metteur en scène Olivier Py il y a de cela 10 ans, mais alors peut-on au moins lui demander de s'adresser une bonne fois pour toutes à tout le monde sans passer pour le naïf de service. Et surtout cette année plus que jamais marquée en France par la violence des attentats puis une forte et longue contestation sociale, quel discours les arts vivants prétendent-ils produire pour nous y accompagner ? Doit-il y avoir un état d'urgence culturelle ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gertie Dambouri. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, dramaturge, metteuse en scène et surtout vous faites partie d'un collectif de comédiens et metteurs en scène qui s'est constitué il y a presque un an et demi maintenant, en mars 2015, Décoloniser les arts, qui se donne pour mission d'interroger les lieux culturels sur la faible présence d'artistes et de directeurs de théâtre non blancs en France et sur d'autres questions que nous allons approfondir tout au long de cette émission. À côté de vous, en face de vous, il y a Christine Pellican. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne, metteuse en scène à la tête de votre compagnie de théâtre Tamerantong, créée il y a maintenant 25 ans et qui travaille notamment avec des enfants et des adolescents âgés de 4 à 18 ans à peu près, c'est le cas en ce moment ?
Mmh. Oui,
notamment à Saint-Denis et à Mantes-la-Jolie.
Et à Paris-Belleville.
Et au téléphone, Hortense Archambault est avec vous. Bonsoir. Est avec nous, pardon. Bonsoir. Oui. Cela fait un an que vous êtes à la tête de la MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et avant cela, vous aviez co-dirigé le Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier pendant 10 ans jusqu'en 2013. Et puis enfin, René Solis est avec nous en duplex depuis les locaux de France Bleu Héros à Montpellier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes critique de théâtre et vous avez collaboré notamment à Libération. Vous participez régulièrement à la dispute d'Arnaud Laporte sur France Culture et vous êtes fondateur et directeur d'une revue culturelle en ligne, Délibéré.fr. Alors, un premier constat, celui que maintenant on peut présenter un peu comme une constante de cette histoire sociale du théâtre que nous sommes en train de vivre et que nous avons vu se construire, c'est celui d'une barrière culturelle très résistante. C'est une prise de conscience qui est revenue sur la table au lendemain des attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre dernier. On a vu réémerger ce débat sur le rôle de la culture, un débat dont vous vous êtes emparé, Hortense Archambault, puisque à l'initiative du metteur en scène Lazare, vous avez organisé une série de discussions autour de cette idée d'état d'urgence culturelle. C'est une série de discussions qui se poursuit encore aujourd'hui à la MC93 et elles sont ouvertes à tous. Et elles incluent aussi des élus de Seine-Saint-Denis, des travailleurs sociaux. Et lors de la première réunion, fin novembre, vous aviez parlé de la remise en cause de l'existence d'un « nous » milieu théâtral. Alors aujourd'hui, ce « nous » dont vous parlez, que vous remettez en cause, c'est qui exactement ? Qui est-ce qu'il regroupe ?
En fait, la question première de Lazare, c'était très frappé par ce qui s'était passé à la suite des attentats et la crainte qu'il avait que les conséquences soient terribles dans la dislocation en fait de la société française. La question du « nous » devenait très très importante pour lui. Et ce « nous », il pensait que c'était important de l'interroger à partir de notre endroit, qui était celui du théâtre. Donc au départ, effectivement, c'est beaucoup d'artistes qui se sont réunis dans les bureaux de la MC93, puisque le théâtre est en travaux, et c'était vraiment un moment de travail, en fait, de réflexion partagée sur cette question de est-ce qu'il y avait un « nous » théâtral, et est-ce que ce « nous » avait une responsabilité, quelle pouvait-elle être ? Et comment on pouvait s'échanger en fait sur ces problématiques-là. Je crois que ça a été d'abord aussi un moment en fait de témoignage. Beaucoup d'artistes ont témoigné.
Il y avait besoin de redéfinir ce nous aujourd'hui post-13 novembre ou c'était une nécessité de le redéfinir?
Je crois que c'est un problème de la société française, oui. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Beaucoup des artistes qui étaient réunis là se disaient, bah oui, qu'est-ce que c'est que ce nous? Qu'est-ce que c'est que ce eux? Qu'est-ce que c'est que il? Et est-ce qu'à un moment donné, le théâtre, puisqu'on est un endroit de la représentation symbolique, hein, aussi du monde dans lequel on est, comment le théâtre pouvait s'emparer de ça? Est-ce que, du coup, il existait un nous théâtral sur ces questions-là? Et en fait, bah, comme dans toute la société, il n'y a pas forcément un nous théâtral, mais peut-être qu'il est à retisser, à construire, et notamment en n'ayant pas peur d'être dans des controverses parfois aussi.
Christine Pelican, ce nous auquel fait allusion Hortense Archambault, est-ce que c'est une réflexion que vous pouvez avoir avec les adolescents, les enfants qui jouent dans votre compagnie Ta mère en tongue? Est-ce que vous vous posez la question de ce que vous représentez ou de ou dans quelle institution est-ce qu'ils sont impliqués?
Les jeunes acteurs, ils se considèrent pas du qu'on côtoie, hein, avec qui on travaille, ils ne se considèrent pas du tout comme le nous, et ils se considèrent comme à côté. Nous-mêmes à Ta mère en tongue, de par notre nature, c'est difficile d'être nous. Parfois il y a des ponts qui se font, mais en tout cas, de par notre présence dans les quartiers, de par notre travail sur le long terme auprès de ces jeunes à Mantes-la-Jolie, à Belleville, à Saint-Denis, on est loin du nous. Donc on s'y raccroche et on prétend y être parce que on a envie d'amener notre public, les familles, les quartiers, ça fait partie de notre objectif et encore plus de notre c'est le sens qu'on met à notre travail. Comment amener notre public, les jeunes, au théâtre et comment amener aussi le théâtre dans les quartiers.
Justement, votre compagnie, Ta mère en tongue, elle a été fondée il y a 25 ans. C'était
bientôt
25 ans, c'était en 1992. Et c'est votre première production cette même année, c'était une pièce intitulée Ali Baba et les chefs du rail avec 19 adolescents de la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Et c'est dans le cadre des opérations de prévention été. Est-ce que cette réflexion qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on représente en tant que troupe de théâtre, c'était la même il y a 25 ans dans ces mêmes quartiers? Quand vous avez fondé votre compagnie, est-ce que vous vous posiez la question de qu'est-ce qu'on doit représenter et quel discours est-ce qu'on doit apporter à ces jeunes qui attendent de faire du théâtre avec nous?
Non, en tout cas, nous, on est dans les quartiers, pas parce qu'on a un discours, pas parce qu'on a quelque chose à apporter. Ils ont autant... c'est vraiment une rencontre et nous c'était aussi un coup de foudre de voir autant d'énergie, autant de talent et une envie vraiment de construire avec eux et d'embarquer ensemble. Après, quand on a débarqué à Mantes-la-Jolie en 92, on y a été en tant qu'artiste, allant faire un beau spectacle l'été avec des gamins qu'on ne connaissait pas, avec des travailleurs sociaux qu'on ne connaissait pas, des familles qu'on ne connaissait pas. Ça a été un beau résultat au point de vue média, mais pour nous, on n'avait aucun sens. C'est-à-dire que ça a été extrêmement violent, ça a été dur d'amener les enfants sur la scène théâtrale. Pour moi, à mon sens, ça n'a pas été du théâtre, mais plus du domptage. Et on s'est dit, plus jamais, on retourne comme ça dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des ados. On va leur dire, venez, on va faire un beau spectacle. Voilà. Et effectivement, ils étaient très contents. Après, il y avait plein de gens qui sont venus les applaudir. L'objectif artistique était plus ou moins réussi, mais le sens n'était pas là. Et qu'est-ce qu'on avait fait avec eux? On ne leur avait pas montré ce que c'était le théâtre, en tout cas. Et on a dit, salut, Mantes-la-Jolie, on s'en va. On peut pas. C'est trop dur. Et en fait, les travailleurs sociaux sont venus nous chercher, les éducateurs, ils nous ont dit, mais venez, on va penser un projet ensemble, sur le long terme. Et on est revenu, on a écouté, et effectivement, c'est là qu'on a posé les bases de notre action. Donc on commence pas comme ça, en arrivant tout seul. On travaille avec les gens de la ville, avec les habitants, avec les familles. Il y a un lien énorme à construire sur le long terme, qui devient un lien plus ensuite de fraternité et d'amitié, qui se transforme. Et aussi, on commence avec les petits et on les accompagne longtemps. Donc on commence par des périodes d'initiation, on initie au théâtre, mais aussi au savoir construire ensemble, comment on s'écoute avec nos différences, différences culturelles, de couleurs, de religions, voilà. Et ensuite, on monte le spectacle.
C'est là qu'on voit que le nous ne peut ne pas englober que les personnes qui travaillent, que le monde en tout cas du théâtre, mais aussi comme vous dites, les travailleurs sociaux, les familles.
Oui, c'est avec eux qu'il faut travailler.
C'est aussi le sens des rencontres qui ont lieu en ce moment à la MC 93. Gertie Dambouri, ce nous théâtral, est-ce qu'il fait l'objet au sein du collectif Décoloniser les Arts d'un constat d'échec? Parce que c'est aussi ce que vous soulignez quand vous êtes constitués tous ces metteurs en scène, tous ces comédiens en mars 2015 en collectif pour dénoncer justement ce théâtre trop blanc où malgré ces constats répétés, la mixité, la diversité peine à s'imposer dans le théâtre.
Ben, en réalité, d'abord, nous ne sommes pas réduits au théâtre. Il y a le théâtre, il y a les arts plastiques, il y a de la danse, les arts visuels, le cinéma. Enfin, il y a des gens de tous horizons. Ça, c'est très important de le dire parce que on nous reproche déjà au théâtre d'être omniprésent et d'essayer d'être omnipotent, ce qui n'est absolument pas vrai. Bon, peu importe. Mais ce nous que vous êtes en train de questionner est d'abord un nous sociétal. Je veux dire que si on ne peut pas questionner le théâtre en dehors de la société, le théâtre n'existe pas en dehors de la société. Il existe dans la société, avec ou contre, mais en tout cas, il est en rapport avec elle. Et donc, la question que nous posons plus largement est la question de la possibilité ou non de faire nous dans la société française, et que ce questionnement sur le nous de la société française traverse le théâtre.
D'ailleurs, je cite la charte que vous avez envoyée à plusieurs centaines de directeurs de lieux culturels. Pouvons-nous continuer à affirmer, écrivez-vous au sein du collectif Décoloniser les Arts, pouvez-vous continuer à affirmer une culture qui ne ressemble plus à la population française aujourd'hui ?
Oui, nous posons cette question depuis très longtemps. Alors, il est exceptionnel. Pour moi, c'est très signifiant que la question de la décolonisation des arts, parce que c'est pas une question de diversité, c'est une question de décolonisation de la pensée, de l'imaginaire, du mode de fonctionnement des institutions, etc., se pose maintenant, aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, en relation avec les difficultés de la société à un moment donné. Et c'est un peu ce qu'exprime madame qui est juste en face de moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné...
Christine Pellicane, oui, c'est ça.
Christine Pellicane, excusez-moi. C'est qu'à un moment donné, on appellerait le théâtre au chevet d'un malade. Et donc, il y aurait des malades, il y aurait un malade en particulier qui serait un malade indéfinissable qu'on appelle d'ailleurs le quartier ou les quartiers. Et du quartier ou des quartiers dont j'aimerais bien savoir comment on appelle Belleville, c'est aussi un quartier. Comment est-ce qu'on appelle Passy, c'est aussi un quartier. Du quartier ou des quartiers généralement associés à l'idée que là se trouvent rassemblés des Africains, des Maghrébins, des Antillais, de conditions modestes, pauvres, dans des difficultés, au chômage, etc., etc. Et que de là partiraient des attaques contre la société française, là, à ce moment-là, on aurait besoin de se poser la question de comment faire intervenir le théâtre dans ces quartiers-là. Mais ces quartiers-là, le théâtre n'aurait pas à se poser la question d'intervenir dans ces quartiers si le théâtre posait la question de l'existence de ces quartiers. Et c'est la première question que nous posons.
Et vous dites que ça fait longtemps que vous portez ce questionnement, mais ce collectif existe, lui, depuis mars 2015. Qu'est-ce qui l'a fait émerger? Pourquoi la nécessité maintenant de porter cette voix et ces paroles-là au sein d'un collectif?
En réalité, si on refait l'historique du théâtre et des arts en général en France, on s'apercevra qu'il y a eu plusieurs collectifs. Il y a toujours eu des collectifs. Il y a eu un collectif qui s'appelait le collectif d'hommes, je crois, dans lequel il y avait Greg Germain, Jean-Michel Martial et d'autres. C'est Jacques Martial qui est maintenant, qui a été un moment directeur de la Villette, qui est maintenant directeur du musée d'art, musée de l'esclavage de la Guadeloupe. Ces gens ont posé cette question. À un moment donné, au niveau de TF1, on a vu apparaître Harry Roselmack, la question avait été posée de la place, de la présence des Français venus d'ailleurs dans les institutions et à certains postes où on pourrait les voir. La question de la visibilité. Aujourd'hui, ce collectif Décoloniser les Arts est le résultat d'un certain nombre de coups de gueule qui ont été posés à plusieurs reprises, d'abord autour de l'exposition de Brett Bailey, Exhibit B, bon, mais ça, on n'était pas tous d'accord là-dessus, donc on peut pas dire que Décoloniser les Arts vient.
C'était une performance donc qui montrait plusieurs personnes noires dans des situations, des sortes de tableaux,
voilà,
liés à la domination que la population noire a subie historiquement
absolument,
à travers les temps.
Et donc, on peut pas dire qu'on est né directement de ça, mais il y a des gens qui ont pris part aux manifestations contre cette exposition. Ensuite, il y a eu une rencontre à la colline, qui était une rencontre faite autour de l'idée de Stanislas Nordet qu'il était important de faire des classes qui permettent à des jeunes ayant des difficultés à entrer dans les conservatoires d'avoir une formation spécifique avant d'attaquer le concours du conservatoire. Il y a à peu près la même chose à Saint-Étienne, mais enfin, je ne veux pas être trop longue. Et là-dessus, s'est créé un collectif qui a d'abord organisé 2-3 rencontres à Avignon sur ces questions-là, en relation d'ailleurs avec le collectif HF, qui est le collectif Hommes-Femmes, qui pose la question de la place des femmes dans le théâtre, dans les arts en général, les femmes metteurs en scène, les femmes autrices, etc. Et donc, ensemble, nous avons posé ces questions jusqu'à arriver en novembre à créer une association cette fois qui s'appelle Décoloniser les Arts et qui va peut-être un peu plus loin précisément que la simple question de la représentation, mais qui pose des questions non seulement de la représentation des personnes généralement invisibles sur les scènes, mais qui pose aussi la question du répertoire, la question des récits, la question de la formation, etc. Et donc toutes ces questions sont les questions que nous posons depuis des années, mais que conjonction des temps, on entend un peu plus fort.
Alors avant d'aller un peu plus loin justement dans cette réflexion, j'aimerais d'abord entendre René Solis sur cette question du nous avant de passer vraiment à autre chose. Ce nous théâtral remis en cause donc dans le cadre de ces discussions à la MC 93 juste après les attentats, ce constat qu'il est difficilement possible de se sortir de l'entre-soi. Est-ce que c'est une constante d'une histoire politique et sociale du théâtre selon vous, René Solis?
Mais en fait, je ne crois pas, ou je crois qu'on confond un peu les choses. Alors, on parle très souvent d'un échec de la démocratisation théâtrale, et sur quoi on se base pour parler d'échec, on dit, voyez, le nombre de gens, d'ouvriers, de gens des quartiers populaires qui vont au théâtre reste extrêmement faible, et ça n'augmente pas vraiment, etc. Alors, si on garde une approche comme ça, purement statistique des choses, oui, on peut dire ça. Et en même temps, je crois qu'on passe complètement à côté d'une réalité fondamentale du théâtre et du théâtre public, qui est que, évidemment, au centre de l'action et de l'interrogation des artistes qui font le théâtre public depuis, on va dire, depuis 100 ans dans ce pays, la question du lien social, elle est totalement essentielle. Et je ne
elle
connais pas
présente,
un seul...
Mais est-ce qu'elle arrive à être réglée, enfin, parce que ce sont des questions qui reviennent assez souvent les mêmes.
Ce sont les mêmes questions qui reviennent, mais en même temps, c'est un éternel recommencement. Je veux dire, c'est vraiment une espèce de oui, c'est une roche de Sisyphe et on recommence et on recommence. Et on peut pas quantifier. Je crois que l'erreur, c'est de vouloir quantifier ça. On peut pas quantifier la trace que peut laisser un moment de théâtre chez des gens qui n'y vont pas et qui en ont vu un. On peut pas. Or tout ça, c'est il y a depuis très longtemps. J'entendais la compagnie Ta mère en tant que ça fait 25 ans. Il y a beaucoup d'autres compagnies de théâtre, expériences de théâtre dans les quartiers depuis longtemps. Je pense, Hortense Archambault connaît bien cette histoire, à la compagnie Mettre en scène à Avignon, Michel Adala qui travaille depuis 25-30 ans dans les quartiers périphériques d'Avignon, dans des endroits totalement abandonnés de tout le monde et de tout, et de toute activité, de tout. Et pourtant, ils continuent à y faire du théâtre. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les gens de ces quartiers d'Avignon vont voir les spectacles du festival. Mais il y a une action sans fin, toujours recommencée, et qui est aussi quand même, on peut dire la noblesse du théâtre, parce que cette idée du lien social, oui, je connais pas un seul directeur conscient d'institution qui ne se la pose pas tout le temps en permanence. Alors évidemment, Hortense Archambault à la MC 93, cela repose et comment, mais je me rappelle un reportage que j'avais fait sur le Phénix, la scène nationale de Valenciennes, où c'est un travail pareil, permanent. Il n'arrête pas de faire des ateliers partout dans les quartiers, avec de faire venir des gens, d'organiser des bus qui vont chercher les gens pour les amener au théâtre, etc. Et s'il y a des lieux qui essayent de créer du lien social en France aujourd'hui, c'est bien les théâtres publics.
Gerty Dambouri me faisait signe, elle demande, mais c'est quoi les quartiers dans ce que vous dites ?
Mais je pense très concrètement, alors sur Avignon, Montclar, Champfleury, je veux dire, les quartiers qui sont des quartiers à l'abandon ou pratiquement à l'abandon et depuis longtemps, avec une population immigrée ou d'origine immigrée presque exclusive, avec des problèmes sociaux qu'on retrouve partout. Donc c'est ce qu'on appelle évidemment, je suis d'accord avec elle, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de la réalité de ce que vivent ces gens, du fait justement, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un festival de la musique, des choses qui se passent, donc évidemment, mais après tout, je veux dire, parler des quartiers et parler de l'abandon de certaines zones périurbaines, c'est aussi une réalité.
Alors, le fait que l'on n'arrête pas de soulever ce problème du lien social, c'est effectivement une réalité. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour le dire. Seulement, quand on jette un œil sur les comptes rendus des discussions qui ont lieu à la MC 93, il y a quelque chose, par exemple, qui m'a interpellée, c'est un intervenant qui dit avoir fait beaucoup d'ateliers et qui a renoncé à convaincre les jeunes d'aller au théâtre. Hortense Archambault, c'est là que réside ce constat d'échec. Et c'est non pas dans le fait de soulever le problème et d'en parler, mais le fait de dire qu'à un moment, il y a une impasse, on ne sait pas de quel ordre elle est, sociale incontestablement, mais il y a quand même un sentiment, quand on lit ça, quand on entend ça, un sentiment d'échec.
Je crois pas, en fait, je crois que j'avais envie de réagir, en fait, ce qui est incroyable, l'histoire de la MC 93, c'est un théâtre qui a toujours été un très grand théâtre, avec une ambition artistique incroyable, les plus grands artistes du monde y ont été programmés, et c'était un théâtre en banlieue. Donc ça veut aussi dire qu'il y a quand même une histoire du politique qui a décidé que les quartiers sont pas forcément des endroits où rien ne s'est passé, bien au contraire. Quand on voit le nombre de théâtres publics qui sont justement dans la banlieue parisienne, bah c'est aussi le résultat d'une histoire, et peut-être que ce qui s'est passé simplement, c'est que le monde a changé et que le théâtre doit repenser sa manière d'exister dans ces quartiers. Moi, j'ai eu envie de diriger une institution d'un théâtre public justement dans un quartier, pour une raison très simple, c'est que je pense que c'est là que va se jouer l'avenir de notre pays. C'est-à-dire, soit on est capable d'essayer de faire en sorte que quelque chose s'invente à cet endroit-là, soit je pense que le vieux continent, qui est complètement mélancolique comme l'Europe, est en train effectivement de traverser une crise dont elle se sort pas. Et je dis pas que la solution va venir des quartiers, mais une partie de la solution va venir de ces quartiers, parce que le monde entier est là. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que le théâtre doit se confronter à de nouveaux paradigmes qui sont ceux de la société. Et donc ce fameux « nous » si difficile, il est le résultat de ça. Pour reprendre ce que vous disiez l'artiste qui témoignait, il y a beaucoup de gens qui font des ateliers, qui font un travail incroyable. C'est d'abord un désir d'artiste, je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il faut que les artistes aient envie de faire quelque chose avec tel ou tel type de public. Et ça demande énormément de temps. Et il faut qu'il y ait une rencontre. Et une fois qu'on a eu une rencontre et du temps, ces gens-là vont pas forcément aller au théâtre, mais il s'est passé une expérience qui est suffisante en soi, me semble-t-il en tout cas.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Doit-il y avoir un état d'urgence culturelle? C'est la question qu'on se pose avec nos invités, Gerty Dambouri du collectif Décoloniser les Arts, Christine Pellican de la compagnie Ta mère en tongue, Hortense Archambault, directrice de la MC93, et René Solis, critique, fondateur, directeur du site d'info culturelle délibéré.fr. J'aimerais qu'on passe à une réflexion sur le lieu que représente le théâtre aujourd'hui, et on en revient aussi du coup à vos réflexions, Hortense Archambault. Dans ce qui ressort de ces mêmes discussions, on lit qu'en tant qu'artiste, en ce moment, il y a le sentiment que rien ne puisse être fait domine et que cela ne passera pas par les spectacles, parce qu'on a une seule catégorie de personnes dans la salle. Il faudrait déplacer le spectacle, déplacer le lieu de la représentation. Hortense Archambault.
Bah, en fait, oui, et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut arriver à refaire rentrer la société et le monde à l'intérieur des théâtres. Il y a un constat qu'on peut partager sur lesquels, les directions ont une responsabilité, hein, que je me mets dans ce nous-là, pour le coup. C'est que, effectivement, face à des problèmes économiques qui ont été réels ces derniers temps, les théâtres ont fermé de plus en plus. C'est-à-dire que les théâtres sont ouverts que pendant la représentation. Et la vie de ces théâtres, c'est-à-dire avant, après la représentation, la convivialité, ces endroits de lien que devrait être le théâtre, effectivement, ont perdu une partie de leur mission. En tout cas, c'est ce qui me semble. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour des spectacles, avant, après? Et puis, ça rejoint un désir d'artiste de plus en plus de faire des choses artistiques qui n'ont plus forcément la forme d'un spectacle qui peut partir en tournée et tout ça. Et on est un peu démunis parce que pour accompagner ce type de projet, il faut réinventer de nouvelles manières de faire.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Christine Pellican, de ces nouvelles manières de faire qui doivent être pensées pour amener le théâtre vers le public, vous qui dont la compagnie se déplace en fait?
Nous, on est dans les quartiers, on se déplace, on a plein de formes d'action. Autour de la constitution des troupes, il y a des périodes d'initiation. Ensuite, il y en a des petites créas qu'on fait lors de résidence dans le cadre de l'initiation. Ensuite, il y a des créations annuelles. Et puis après, oui, il y a des gros spectacles avec des troupes qu'on suit et qu'on accompagne longtemps. En tout cas, nous, c'est pas les événements qui nous ont fait nous politiser ou dire « Ah tiens, il y a un truc, ça va mal depuis longtemps ». Et depuis longtemps, on rame. Et on n'est pas dans les quartiers, tiens, on a trop envie de faire des choses. Non, c'est dur de rester, c'est dur parce qu'on n'a pas les moyens. On a un spectacle en tournée, à chaque fois qu'on joue en général par un réseau solidaire. C'est très difficile d'avoir des théâtres ou des directeurs de théâtre qui se déplacent, qui viennent nous voir. Et quand on joue, le public est enchanté, il y a des rencontres, il y a des liens, mais il faut se battre, ça fait partie de notre guerre pour dire « on existe, venez voir nos acteurs, venez les... » Enfin, en tout cas, nous, on sent vraiment un fossé énorme et notre travail est aussi d'aller chercher à se faire voir, venez voir nos enfants, venez dans les quartiers, accueillez-les chez vous. Et quand ça se passe, c'est très bien, mais après on se dit pourquoi tout va bien quand on joue, il y a des choses extraordinaires qui se passent avec le public, il y a un déclic, d'un seul coup on voit des acteurs noirs qui jouent des rôles auxquels on ne s'attend pas du tout, mais ça marche, on y croit. Pourquoi on se pose les questions d'habitude, un blanc, un noir, un chinois, un machin, un truc, une fille, un garçon? Enfin, le théâtre c'est une magie où avec le théâtre, avec le travail, tout se transforme, tout est possible, et le public il met en demande de ça, de ce vivant là, de ces connexions là sauf que on se sent, alors oui, il y a plein d'initiatives, mais en tout cas, nous, en 25 ans d'existence, on ne voit pas la différence, en tout cas. Et par contre, là où on voit la différence, c'est une détresse croissante dans les quartiers qui se creuse. Et nous, on est là,
Vous le voyez à travers ce que vous voyez des jeunes que vous suivez depuis l'enfance?
Ouais, maintenant de leur famille, puis il y a un constat de violence. Maintenant, avant, les jeunes, la violence, on la sentait à un moment de l'adolescence. Maintenant, un gamin de 8 ans, il pique une crise. Les directeurs d'école sont obligés d'appeler les pompiers pour le calmer parce qu'ils ne peuvent pas, un gamin de 8 ans. Donc quand on va dans les quartiers, nous, on y va. Et à côté, y a des jeunes extraordinaires qui ont un talent de malade, mais On se dit, et quand on va dans les scènes nationales, il y a toujours des gens qui disent, ah, lui, c'est une future star, ah oui, machin, mais, et on n'ose pas dire aux gamins, vas-y, lance-toi là-dedans, parce qu'on sait toutes les portes et tous les vieux carcans qu'il aura à défoncer. Un noir aujourd'hui, il est acteur, et ben c'est, on est encore loin. La France aujourd'hui, c'est, elle est de toutes les couleurs, mais on reste dans l'idée que le noir, il est africain, que le jaune, il est chinois. Mais non, la France, c'est plus ça. Et voilà. Donc, et puis c'est aussi quand on joue, c'est regardez les quartiers. C'est pas ce qu'on en entend. C'est pas dangereux les quartiers. Les jeunes ne sont pas des losers, des fous. C'est juste des gamins, des acteurs incroyables. Et d'un seul coup, oui, tombons amoureux d'eux. Et voilà, c'est casser tout un système. Mais on n'a pas trop l'espace pour le faire.
Gertie Dambouri, je voyais réagir à ce que disait Christine Pélican.
Moi, je trouve
Pélican.
Absolument passionnant tout ce que vous venez de dire. Parce que le fond de la question est là. C'est-à-dire que vous êtes des travailleurs que l'on considère comme des petits travailleurs,
oui,
à qui on n'ouvre pas des portes plus grandes. Vous êtes devant un mur sans porte. Je crois que c'est le titre de l'un des spectacles de Lazare.
Oui.
Et je trouve dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'est comme si on demandait que quelque part existe des gens qui fassent tenir les gens tranquilles. Bon, alors c'est bon, c'est très beau ce qu'ils font, etc. Mais on ne va jamais les voir. Il faut quand même, avant de se poser la question de savoir si on doit sortir pour aller rencontrer les gens, savoir si on a simplement envie de les rencontrer. Et parce qu'ils sont là, ils sont juste là, à la porte.
Bah justement, on peut demander l'avis de René Solis. Est-ce que les comédiens, les metteurs en scène, les directeurs de théâtre ont envie d'aller rencontrer les gens dont parle
Mais je ne veux pas mettre en question, avant de donner la parole à René Solis, je ne veux pas qu'on entre dans des choses personnelles.
Mais je voudrais juste faire réagir René Solis avant de vous laisser continuer sur le fil de votre pensée.
D'accord.
Est-ce que vous voulez réagir, René Solis, sur le fait qu'il y a une demande du public par rapport à cette rencontre avec le théâtre.
Mais enfin, il y a plusieurs choses en fait. On parlait de Lazare au pied du mur sans porte, hein, qui est effectivement le
donc le metteur en scène qui a initié ces discussions, voilà, dont on parle depuis le début de l'émission à la MC
80. Qui a initié ces discussions et qui lui-même est un enfant de la banlieue, donc qui est un enfant de la banlieue qui a trouvé la porte d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire évidemment pour autant que lui serait rentré et serait à l'abri de l'institution. C'est pas du tout comme ça qu'il voit les choses et qu'il peut les envisager. Oui, je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'artistes qui ont envie de rencontrer d'autres publics, de passer du temps. Et encore une fois, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas quantifiables et qui sont décourageantes, peut-être parce qu'on a l'impression de les faire, de les refaire, et ça change pas, et ça empire autour. Et pourtant, je crois que l'impact d'une discussion, d'une lecture, d'un atelier, est peut-être absolument immense, que ça peut avoir des conséquences, que oui, il y aura un môme, deux, trois, quatre, pour qui ça va changer la vie, la façon de voir le monde. Mais c'est évidemment pas, et de ce point de vue, Olivier Py avait raison, le théâtre n'est pas là pour réduire la fracture sociale. Il peut juste être là pour être un des lieux, et quelquefois on a l'impression que c'est un des derniers lieux capable de faire du lien, d'essayer de faire du lien. Et ça, oui, je pense que, enfin, il faut pas avoir l'image du théâtre enfermé dans les salles. Il y a quand même une grande part de l'activité des théâtres et des artistes qui se déroule aussi en dehors et qui est invisible. Alors il y a ceux qui travaillent exclusivement sur le terrain, mais il y a aussi tous ceux qui sortent et qui vont à la rencontre. Donc oui, ça existe. Je crois pas qu'on puisse faire de procès au théâtre de ce point de vue-là. C'est quand même un des secteurs au sein du monde artistique qui est évidemment et historiquement celui qui a le plus de conscience politique, on peut dire ça comme ça.
Et Hortense Archambault, vous vouliez réagir?
Oui, en fait, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans la caricature, même si c'est toujours un peu difficile. C'est-à-dire que il y a des petits, il y a des gros, il y a des gens qui sont reconnus, dont le travail est plus ou moins reconnu. Et voilà, je pense que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a une prise de conscience un peu générale, pas que dans le théâtre, mais dans la société française, et c'est ce dont on parle depuis le début de l'émission. Et qu'il faut être assez attentif à ni dire que tout va bien, ni dire que rien ne va. Parce que ce qui ne va pas, c'est pas la question du théâtre. Ce qui ne va pas, c'est la question des inégalités de plus en plus criantes de notre société, de celle qu'on construit. Mais en même temps, effectivement, si le théâtre ne peut pas réduire la fracture sociale,
Il peut au moins en parler et soulever des interrogations.
En parler, et puis aussi essayer de penser, quoi. Essayer de trouver des alternatives, essayer de modifier les représentations.
Je voudrais revenir sur ce que disait René Solis avant votre intervention, Hortense Archambault, que en fait cette réflexion, elle se passait avant tout au théâtre. Je voudrais revenir sur ce que je disais, sur ce à quoi je faisais allusion au tout début de cette émission, l'occupation, cette opération Occupation Bastille au Théâtre de la Bastille, 68 jours d'occupation du 11 avril au 12 juin dernier. C'est un événement qui a coïncidé en plus avec l'occupation de plusieurs places en France, à Paris, le mouvement de la Nuit Debout, et qui donc a trouvé un écho assez particulier auprès du public. Il s'agissait d'inviter des spectateurs à travailler, à réfléchir avec le personnel de ce théâtre et les artistes autour de la création théâtrale. Quel est votre regard là-dessus, René Solis, sur cette opération en particulier? Est-ce que c'est donc par l'occupation du lieu théâtre, par le public et les artistes, qu'on arrivera à le désenclaver?
Alors, je ne sais pas si on arrivera à désenclaver, parce qu'on pourrait dire que finalement, l'occupation Bastille a aussi été un entre-nous. On pourrait même dire que Nuit Debout était un entre-nous, etc. Donc, je ne sais pas. Il ne faut pas être penser comme ça qu'il y a des solutions magiques à certains moments et que on
d'ailleurs l'opération a été assez critiquée de ce point de vue-là, du maintien de l'entre-soi.
Sur le mouvement social, ce qui est vrai quand même, c'est que d'abord, je constate au Festival d'Avignon cette année. Par exemple, le nombre de spectacles directement liés à l'actualité politique et même à l'état d'urgence est tout à fait impressionnant et sur avec des esthétiques très différentes. Donc il y a une conscience très forte. Alors ça va de l'adaptation du roman de José Saramago, La Lucidité, qui est donc un roman paru il y a... Oui, par Maëlle Poésy qui a fait cette adaptation, donc qui est l'histoire de à une élection, tout d'un coup, on se réveille, ou plutôt le soir de l'élection, arrive le dépouillement, et on se rend compte qu'il y a eu 90% de votes blancs. Et à partir de là, panique dans la classe politique, qui finit par trouver la solution. Elle déclare la guerre à son propre peuple. Alors le roman de Saramago, il est formidable, parce qu'il est évidemment extrêmement... il y a un côté à la fois visionnaire, et une grande interrogation sur la démocratie. Bon, c'était Avignon, mais le spectacle d'Angelika Lidl était en écho direct et de façon presque, choquante, provocante et en même temps bouleversante, on peut dire pour d'autres, avec le 13 novembre, etc. Enfin, les spectacles, évidemment, je veux dire, la politique résonne très directement dans les spectacles qui se font. Alors on peut penser, il y a des tas de, il y a le théâtre directement documentaire, hein, un auteur comme Michel Vinavert, il a fait quand même ses deux dernières pièces, c'est L'affaire Bettencourt et le 11 septembre 2001. Donc il y a évidemment toujours un phénomène de caisse de résonance du théâtre par rapport à l'état du monde et de la société. Et puis il y a des exemples en Europe de ça aussi tout à fait extraordinaires. Alors il y a un exemple oui, alors il y a évidemment Milo Rao, et comment sur ce théâtre documentaire, avec une force, il parle de tout, il parle des réfugiés, il parle du djihad, il parle dans ses spectacles, et avec aussi, de faits divers, de tout, et tout ça est brassé sans cesse. Alors évidemment, on se dit, mais il faudrait que plus de gens puissent le voir, il faudrait, bien sûr, mais en tout cas,
c'est
ça existe. La conscience politique des artistes de théâtre, je pense qu'elle est remarquable, si en plus, par rapport au degré de dépolitisation générale. S'il y a un lieu, malgré tout, où des gens se posent cette question-là du politique et du rapport et du lien social, encore une fois, oui, c'est celui-là. Alors, encore une fois, oui, il ne faut pas idéaliser. Bien sûr qu'il y a un côté aussi forteresse, entre soi. Voilà, les deux choses coexistent, mais c'est remplie de contradictions. Et ces contradictions sont aujourd'hui vivantes. Je n'ai pas l'impression que le système du théâtre public soit si à bout de souffle qu'on veut bien le dire.
Alors, maintenant qu'on a fait un état des lieux de ce qui allait, de ce qui avançait, de ce qui avançait un peu moins dans la réflexion sur notre société que mène le monde du théâtre, je voudrais qu'on parle un peu des actions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faut-il le faire? Gerty Dambouri, en ce qui concerne l'action de votre collectif Décoloniser les Arts, vous proposez notamment d'attribuer une sorte de label qui récompenserait les bonnes pratiques des institutions théâtrale en matière de diversité. Est-ce que cette mesure, précisément, ce n'est pas signé définitivement, alors vous allez croire que je n'ai que ce mot-là à la bouche, mais un échec du discours politique du théâtre si on commence à fonctionner par ce système de bons points?
En fait, je vous dirais que je suis légèrement décalée par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire que la question de savoir si le théâtre est politique ou n'est pas politique, ou si le théâtre est infusé par l'actualité politique,
comment le théâtre peut nous accompagner dans la société que l'on vit aujourd'hui
par la situation politique. Je veux dire que j'ai vu des pièces proposées par Hortense Archambault et Baudrier
on est un peu au-delà de cette question aujourd'hui.
Voilà, qui posait la question des licenciements, des fermetures d'entreprises, etc. C'est pas ça la question. La question que nous posons n'est même pas uniquement comment aller vers les gens. C'est pas ça la question. La question qu'on pose, c'est comment, enfin que moi, en tout cas, au sein de ce collectif, je suis certaine d'entendre et de poser moi-même, c'est comment penser différemment notre société.
Parce que c'est une question que se posent beaucoup d'artistes et de metteurs en scène.
Nous ne pouvons pas ignorer notre société a été construite sur une histoire particulière. Qu'il s'agisse de l'esclavage ou qu'il s'agisse de la colonisation. Et que les rapports de hiérarchie, les rapports de pouvoir, les rapports, la construction urbaine, l'organisation spatiale, etc., découlent directement de cette histoire-là. Et que nous posons aussi en même temps la question des personnes, pas seulement des artistes, mais aussi des personnes de qui balaye au théâtre. C'est une question toute bête. Qui balaye au théâtre? Qui est vigile au théâtre? Qui est directeur au théâtre? Qui est responsable des publics ou qui est responsable des relations avec la presse?
Mais après
voilà,
ces
nous
questions,
posons toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, nous disons qu'il est essentiel que au niveau des lieux, des institutions, on sorte de chez soi un peu et qu'on regarde ce qui se passe autour. Oui, il faut sortir. Moi, je n'ai pas répondu à la question parce que je n'ai pas eu l'occasion, l'opportunité d'y répondre. Vous avez posé la question de savoir s'il faut sortir des théâtres. Moi, je pense qu'il faut en sortir. Lorsque, moi, j'ai occupé plusieurs fonctions, par exemple, j'ai été responsable du livre et de la lecture à la DRAC de la Guadeloupe. Et l'une des questions que je posais, c'était la construction de ces bâtiments énormes dans lesquels les gens n'allaient pas entrer. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'un enfant peut vous dire, quand vous allez au théâtre, je suis allée au théâtre il n'y a pas très longtemps à Aubervilliers, et qu'un enfant puisse me dire, c'est la première fois qu'on m'amène au théâtre et je ne savais pas que je pouvais entrer. Pourquoi est-ce que des gens nous disent, quand on arrive au théâtre, rien que dans le hall d'entrée, on sait qu'on n'est pas chez nous?
Comment se sentir chez nous au théâtre, Hortense Archambault? Ce sera ma dernière question.
Je crois qu'il faut être très concret. Et là, le théâtre de la MC 93 est en travaux. Par exemple, on a réuni un comité d'usagers pour réfléchir à c'est quoi l'immobilier, quels sont les horaires d'ouverture, pourquoi, voilà. Et notre souhait, c'est que les gens qui rentrent au théâtre soient les plus différents possibles pour faire lien, pour penser, pour réfléchir autrement, essayer d'inventer les mobiliers, les usages qui nous conviendraient le plus ensemble.
Les mobiliers et les usages et sans doute les discours qui vont suivre à la MC 93 dans les semaines, les mois à venir, qui permettront d'alimenter, j'imagine, la réflexion sur ce que doit être et ce que doit apporter le théâtre aujourd'hui. C'est une question sans fin. Apparemment, nous n'avons pas fini d'y réfléchir. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été avec nous pour tenter d'y répondre, d'avancer. Gerty Dambouri, Christine Pellican, Hortense Archambault et René Solis, merci d'avoir été avec nous. L'équipe du Grain à Moudre d'été, c'est Chloé Leblond, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti et Tanguy Omri. Hervé Marchon à la réalisation, accompagné ce soir à la prise de son de Clément Daté. Merci également à nos collègues de France Bleu Hérault à Montpellier qui ont rendu possible cette liaison avec vous, René Solis. Quant à nous, chers auditeurs, en attendant de nous retrouver, vous pouvez aller sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre d'été pour réécouter cette émission, la podcaster et laisser vos commentaires. Et on peut aussi se parler sur Twitter.